Donc nous poursuivons avec la restitution d'un travail effectué dans le cadre du mémoire d'études pour le diplôme de conservateur. Juliette Pinson, vous avez travaillé sur les archives d'écrivains en bibliothèque publique, cartographie et médiation.
Je remercie la BPI et l'ENSIB de m'avoir invitée à présenter cette recherche sur les archives des écrivains en bibliothèque. Donc mon mémoire est disponible dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Qu'est-ce que les archives d'un écrivain ? Voici la réponse qu'apporte l'ethnologue... Oups, pardon. Il y a un souci, je pense, avec la diapo. La citation n'apparaît pas. Désolée. Voici la réponse qu'apporte l'ethnologue et écrivain Jean Mallory dans un entretien publié dans la revue de la BNF en 2013. C'est une sorte de chemin faisant. Le long chemin qu'il parcourt pour parvenir à son œuvre considérée par lui comme achevée. Essais divers, recherches multiples, allers-retours de pensée et d'écriture. Avec le manuscrit initial, on touche le minéral de l'œuvre, le mystérieux travail intérieur de l'auteur. Le pouvoir des archives d'écrivains ainsi esquissées entre en écho avec l'intérêt de notre société actuelle pour les processus créateurs, comme en témoigne la programmation en ce moment à la BNF d'une série de masterclass avec 7 grands écrivains. Lieu de la mémoire de l'écrit et de la création littéraire, les bibliothèques participent du mouvement de transmission de la mémoire des écrivains et de leurs œuvres en accueillant, préservant et valorisant leurs archives au sein de leurs fonds patrimoniaux. Ces documents créés, rassemblés et utilisés par les écrivains pour leurs activités de création, se révèlent de nature très diverse. Brouillons, manuscrits ou tapuscrits originaux, correspondances, agendas, bibliothèques personnelles, photographies ou encore objets, tels sont quelques exemples de matériaux rencontrés. Témoins matériels du travail d'écriture et de la vie de l'écrivain, les archives sont essentielles pour comprendre l'évolution de son œuvre, ses méthodes de création, accéder à ses sources d'inspiration, suivre ses échanges et rencontres. Ce sont donc à la fois les archives d'un travail de création, d'une œuvre, mais également d'une personnalité, d'une vie. Plus ou moins prolifiques selon les auteurs, ces documents privés connaissent des destinées diverses. Certains sont conservés par les héritiers, quand d'autres sont acquis par des collectionneurs privés. Un certain nombre, enfin, rejoint les collections d'institutions publiques, parmi lesquelles les bibliothèques. La multiplicité des acteurs, la diversité des documents et de leurs trajectoires, la disparité des fonds aussi, dessinent une géographie plurielle des archives d'écrivains. Le travail de recherche préalable à cette étude a fait émerger un double constat. Celui d'abord de la diversité des documents et de leur localisation. Celui ensuite de l'absence de vision claire et globale de la réalité des archives d'écrivains en bibliothèque. En termes de ressources d'abord, ne disposant pas de vue d'ensemble sur ce paysage, mais également en termes de représentation, ce patrimoine étant quelque peu méconnu. La démarche cartographique s'est donc naturellement imposée. Cette étude repose sur un travail d'enquête comprenant une phase de repérage des fonds et des initiatives de valorisation, un questionnaire en ligne adressé aux bibliothèques sur la base de ce repérage des fonds, des entretiens, enfin, et échanges par mail avec des responsables de fonds d'archives d'écrivains. Le périmètre de l'étude comprend l'ensemble des bibliothèques publiques françaises et prend en compte les romanciers, nouvellistes, poètes et dramaturges des périodes modernes et contemporaines. Ce travail a été guidé par la volonté d'adopter une vision englobante tout en proposant des zooms sur des fonds et initiatives locales. L'objectif était de parvenir à cerner la place des archives d'écrivains en bibliothèque. Leur place symbolique et culturelle dans l'histoire des collections patrimoniales publiques, leur place matérielle aussi, en termes d'emplacement et de volumétrie, et enfin leur place dans l'offre de médiation des établissements. Quelle cartographie peut-on dessiner des archives d'écrivains en bibliothèque ? Quel rôle les bibliothèques jouent-elles dans le processus de transmission de ce patrimoine littéraire ? Je vous propose de partir à la recherche des archives d'écrivains dans le paysage du patrimoine écrit, puis plus spécifiquement au sein des bibliothèques. J'évoquerai ensuite très brièvement la question du traitement et du signalement de ces documents, avant d'envisager les diverses voies de leur valorisation. Historiquement, le mouvement d'intérêt et de reconnaissance porté aux manuscrits des écrivains suit l'émergence et la montée en puissance de la notion moderne d'auteur, mise en évidence par l'historien de la littérature Paul Bénichou dans son ouvrage « Le sacre de l'écrivain ». Entre 1750 et 1830, l'auteur acquiert progressivement un statut social, juridique et économique, et la volonté émerge alors, chez les écrivains et dans la société, de conserver les traces du travail de création. Ce processus de patrimonialisation s'incarne dans le geste de Victor Hugo, qui décide par son testament de 1881 de léguer l'ensemble de son œuvre manuscrite et graphique à la Bibliothèque nationale. Ce legs ouvre ensuite la voie à une série de dons à l'institution publique de manuscrits littéraires qui se voit doublée d'une politique active d'acquisition. Divers acteurs vont progressivement s'intéresser aux archives d'écrivains en s'engageant dans leur collecte, leur conservation et leur valorisation. Citons en premier lieu les maisons et musées d'écrivains dont la naissance remonte au XIXe siècle. Ces maisons où sont nés, ont vécu, ont écrit des écrivains se caractérisent par une grande diversité dans leur statut, leur esprit et leur démarche de valorisation. Elles représentent aujourd'hui en France environ 185 lieux. Autre acteur important au sein de ce paysage, l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Créé en 1988 à l'initiative de chercheurs et de professionnels de l'édition, aujourd'hui installé à l'abbaye d'Ardenne, près de Caen, l'Institut conserve en dépôt des fonds d'archives d'un grand nombre d'écrivains des XXe et XXIe siècles. Les archives des écrivains constituent aujourd'hui un patrimoine relativement dispersé, sous la garde de multiples acteurs. En dehors des maisons d'écrivains et de l'IMEC précédemment citées, on trouve également ce type de documents dans des lieux d'archives. Par exemple, les archives départementales des Alpes de Haute-Provence conservent un fonds Jean Giono. Dans certains musées, le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis a par exemple un fonds Paul Éluard, ainsi que dans des bibliothèques, au premier rang desquelles la BNF et la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Les modalités et critères d'acquisition sont fonction des missions et des statuts des institutions, mais il n'existe pas de cadre de répartition clairement établi. Les exemples de dispersion se comptent ainsi par dizaines. Citons l'exemple de Colette, dont les archives se trouvent réparties entre la BNF, l'IMEC, le musée et la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, son village natal, la bibliothèque municipale de Nantes, qui conserve ses lettres à ses amis nantais, et le musée d'art moderne Richard Anacréon à Granville, le collectionneur étant un grand ami de Colette. Parmi les moteurs de la synergie entre tous ces acteurs, signalons le rôle important de la Fédération des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires, qui contribue à connecter les lieux et initiatives, notamment via son site web et l'organisation de rencontres bisannuelles. Le mouvement de patrimonialisation des archives littéraires s'est poursuivi ces 10 dernières années, encouragé par l'action de protection et de labellisation engagée par l'État. Certains documents ont ainsi pu bénéficier d'un classement au titre de trésor national, tel en 2016 le manuscrit autographe de Nadja d'André Breton, qui vient tout juste de rejoindre les collections de la BNF. La création en 2011 du label Maison des Illustres participe aussi de la reconnaissance de ce patrimoine littéraire. Ce panorama historique et culturel esquissé, nous pouvons nous pencher plus avant sur les archives d'écrivains en bibliothèque. Mon mémoire s'accompagne d'une cartographie interactive permettant de visualiser et d'interroger les données collectées. Alors, normalement, je devais vous emmener sur la cartographie, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Je tente l'ouverture d'une page internet à côté. Voilà. Donc pour chaque bibliothèque, elle recense les auteurs dont les établissements conservent des archives, renvoie vers les outils de signalement et met en avant des initiatives de valorisation. Elle répertorie donc 108 bibliothèques, dont 48 bibliothèques municipales classées, 45 bibliothèques municipales aux collections plus modestes. Bon, désolée, mais je vais revenir en fait sur le diapo parce que j'arrive pas à afficher le... Voilà, ah, sur mon écran, je visualise la page web, mais on va rester sur le diapo. Donc, je reprends 108 bibliothèques, donc 48 bibliothèques municipales classées, 45 bibliothèques municipales, 10 bibliothèques universitaires, parmi lesquelles la bibliothèque universitaire d'Angers constitue un cas à part du fait de la richesse de ses fonds d'archives littéraires, et enfin les bibliothèques parisiennes. Cette cartographie répertorie 500 auteurs du 15e au 21e siècle, dont la répartition dans le temps s'explique en grande partie par l'histoire de la conservation et de la transmission des manuscrits littéraires. On observe ainsi une très faible proportion d'auteurs pour la période 15e-18e et une prépondérance des 19e et 20e siècles. Des auteurs majeurs côtoient des écrivains plus modestes. Mentionnons pour retenir les auteurs les plus connus, les Fonds Stendhal à Grenoble, Flaubert et Maupassant à Rouen, Jules Verne à Amiens et Nantes, Verlaine à Metz, Mauriac à Bordeaux, Michel Butor à Nice, etc. D'un point de vue spatial, l'éclatement est manifeste et le critère de l'ancrage local est prédominant. Ce patrimoine présente des réalités très diverses, révélées par les réponses aux questionnaires. Celles-ci attestent d'une diversité de localisation des archives au sein des collections, d'une volumétrie très variable, allant de quelques unités à des dizaines de milliers de pièces, également d'une variété de types de documents. Donc, une variété de types de documents avec une prépondérance de la correspondance et des brouillons et manuscrits d'œuvres. Les réponses au questionnaire révèlent aussi la variété des provenances, les dons arrivant en première position devant les acquisitions onéreuses, les legs, puis les dépôts. L'enquête a permis de pointer le dynamisme de l'enrichissement des fonds, régulièrement augmenté de nouveaux dons et de nouvelles acquisitions, pas moins de 36 bibliothèques ayant ainsi acquis de nouvelles archives entre début 2015 et mi-2016. Les acquisitions sont essentiellement réalisées dans des ventes aux enchères et bénéficient du soutien du ministère de la Culture, des FRAB et plus occasionnellement du mécénat. La seconde partie de mon mémoire est consacrée au traitement, au signalement et à la communication des archives. Classer, décrire, signaler, l'accessibilité de ces documents dépend en effet de toute une chaîne d'opérations matérielles et intellectuelles qui conditionnent leur communication. Celles-ci s'avèrent complexes et chronophages, expliquant leur non-achèvement dans un certain nombre d'établissements. J'aborde notamment dans cette partie la question du signalement et de ses récentes évolutions, et celle de la promotion des fonds. Tout fonds non signalé étant inexistant, il importe en effet pour les bibliothèques de veiller à faire connaître leurs collections. Les différents canaux employés sont principalement le CCFR, les catalogues et les sites web des établissements. J'évoque aussi dans cette partie la question de la communication des archives aux lecteurs et propose un état des lieux de leur numérisation. Véritable rocher de Sisyphe, la chaîne de traitement des archives est souvent un éternel recommencement au gré des nouvelles acquisitions. Le jeu en vaut pourtant la chandelle, puisqu'il y va de la visibilité et du rayonnement des fonds à travers les opportunités d'exploitation ainsi ouvertes. Les archives des écrivains offrent de nombreuses possibilités de valorisation, répondant aux intérêts croisés de la recherche et de la médiation culturelle. Les bibliothèques conçoivent et mettent en œuvre une palette d'initiatives à destination des chercheurs et avec leur collaboration, et à destination du grand public. Les archives d'écrivains constituent d'abord un matériau riche pour la recherche. Elles sont exploitées aussi bien par les chercheurs en littérature, notamment en génétique des textes, que par les historiens ou les sociologues. Citons par exemple le récent travail de thèse de Camille Bloomfield sur l'Oulipo, histoire et sociologie d'un groupe monde. Sa recherche s'est fondée en grande partie sur les archives de l'Oulipo qui sont conservées à la bibliothèque de l'Arsenal. La richesse des possibilités d'exploitation atteste ainsi de l'intérêt pour les bibliothèques de conserver, signaler et mettre à disposition leurs archives. Les responsables de fonds sont parfois partie prenante de la valorisation scientifique des collections lorsqu'ils collaborent à des publications universitaires, participent à des colloques ou journées d'études ou co-organisent des expositions avec des chercheurs. Je me suis également intéressée au projet d'humanité numérique mené à partir de fonds d'archives d'écrivains. Ces projets sont l'occasion pour les chercheurs et les bibliothécaires d'explorer de nouvelles formes de co-valorisation. Mon mémoire recense ainsi 8 initiatives de ce type, dont la première, le projet manuscrit de Stendhal, a vu le jour à Grenoble dans les années 90-2000. Né d'un partenariat entre l'Université de Grenoble, la Maison des sciences de l'Homme Alpes et la Bibliothèque municipale de Grenoble, il avait pour objet l'édition scientifique numérique des manuscrits stendhaliens conservés à la Bibliothèque de Grenoble. L'université s'est chargée de la transcription des manuscrits, tandis que la bibliothèque a assuré une partie de la numérisation. Ces projets d'humanité numérique ont à la fois pour objectif de fournir des outils de travail aux chercheurs et de mettre en valeur le patrimoine littéraire auprès d'un public élargi. Le dernier projet en date concerne le fonds Benoît de Groux, conservé par la Bibliothèque universitaire d'Angers, visant à produire une édition en ligne du dossier génétique de l'autobiographie de l'écrivaine féministe Mon Évasion. Son originalité réside dans sa dimension collaborative, puisqu'il fait appel à la participation du public grâce à un outil de transcription contributive. Côté grand public, les expositions sont les actions les plus fréquemment mises en œuvre par les bibliothèques pour valoriser leurs archives d'écrivains. Elles sont suivies des conférences et des publications. Exposer la littérature, pour reprendre le titre d'un récent ouvrage paru sous la direction de Jérôme Bessière et Emmanuel Payen, exposer la littérature donc n'a pourtant rien d'évident, excepté peut-être pour certains manuscrits de la main des plus grands auteurs, porteurs d'une certaine charge émotionnelle à même de susciter l'intérêt du public. La valorisation nécessite de ce fait d'apporter un soin tout particulier au dispositif de monstration, d'animation de la matière archivistique. Le contexte qui préside aux expositions est souvent soit une célébration, entrée d'un fonds, acquisition exceptionnelle, soit une commémoration, naissance ou mort d'un écrivain, anniversaire de l'apparition d'une œuvre. Les expositions connaissent actuellement un véritable renouvellement, avec une diversification des approches et un travail important sur la scénographie. Deux expositions organisées à la BPI ces dernières années en témoignent, l'une qui était consacrée à l'œuvre de Claude Simon en 2013-2014 et l'autre à l'écriture de Marguerite Duras en 2014-2015. Les musées offrent à cet égard des sources d'inspiration intéressantes. Un mouvement est en effet aujourd'hui à l'œuvre, qui fait s'emparer les musées de la littérature et des objets littéraires pour les mettre en regard avec leurs propres collections. Un bel exemple était notamment offert au MUCEM l'été dernier à Marseille avec l'exposition Jean Genet, l'échappée belle. Cette exposition avait pour point d'ancrage la relation de l'œuvre de Jean Genet à l'art avec pour pièce centrale la sculpture de l'homme qui marche d'Alberto Giacometti. Le parcours de l'exposition était organisé en 3 thèmes qui faisaient se croiser une œuvre, un moment de la vie de l'écrivain et un territoire méditerranéen. Au centre de chaque espace étaient présentés des documents originaux provenant de l'IMEC, de la BNF, de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet et de collections particulières. Les manuscrits des œuvres de Jean Genet côtoyaient des archives qui permettaient de percevoir le travail de l'auteur et leur rayonnement. Hormis les expositions temporaires, quelques bibliothèques abritent un espace permanent dédié à la mise en valeur d'un écrivain et de ses archives. Je suis désolée, j'ai l'impression que tout a bougé dans le diapo. C'est indépendant de ma volonté. Par exemple, donc, la médiathèque de Vichy accueille la bibliothèque-musée de Valérie Larbeau. Une salle attenante à son espace patrimoine présente les livres, les manuscrits, les souvenirs personnels et le mobilier de l'écrivain, dont le bureau a été reconstitué à l'identique. Le fonds Valérie Larbeau est véritablement inscrit dans l'ADN de la bibliothèque, qui porte le nom de l'écrivain et dont l'identité graphique a été créée à partir de son ex-libris, un cerf ailé. En complément des expositions, conférences et publications, les bibliothèques diversifient leur offre de médiation en proposant une variété de manifestations culturelles dont mon mémoire dresse une typologie. Lectures et spectacles, visites découvertes avec présentation de fonds ou de pièces d'archives, participation à des manifestations nationales comme les Journées européennes du patrimoine ou encore des prix littéraires comme le prix Valérie Larbeau à Vichy. La présence d'un fonds d'archives d'écrivains sert parfois de point d'ancrage à une vaste entreprise de valorisation qui dépasse le seul cadre de la bibliothèque. Certaines opportunités du calendrier, le plus souvent une année de commémoration, sont ainsi l'occasion de dérouler une programmation culturelle à l'ampleur et au rayonnement plus vaste. À Montélimar, par exemple, l'année 2015 fut aux couleurs d'Alain Borne, à l'occasion du centenaire de la naissance du poète. Une vingtaine de rendez-vous ont ainsi été proposés en complément d'une exposition. L'idée était de décliner l'événement commémoratif en de multiples manifestations destinées à faire revivre la personnalité et l'œuvre de l'écrivain. Enfin, mon mémoire explore la diversification de la valorisation à l'heure du numérique. Parmi les multiples initiatives, je retiendrai l'événement Montaigne Superstar, organisé à Bordeaux à l'automne dernier. Cette manifestation originale fut programmée à l'occasion de la présentation de l'exemplaire bordelais des essais suite à sa numérisation par la BNF. Au programme, une grande exposition à la bibliothèque Mériadec et une vingtaine de rendez-vous culturels, ludiques et interactifs. S'adressant à un large public, cette manifestation s'est voulue festive et joyeuse, dans un esprit de découverte et non d'érudition. L'idée était de décomplexer le patrimoine et de dépoussiérer l'image de Montaigne en montrant sa modernité. La bibliothèque a donc communiqué sur cet événement avec un ton décalé et humoristique par le biais du personnage de Montaigne Superstar, créé pour l'occasion par le dessinateur Jules. Les bibliothécaires ont, entre autres initiatives, fait revivre Montaigne sur Facebook en lui créant un compte quelques mois avant l'exposition. Le chapitre de la valorisation se clôt sur les promenades littéraires dans la ville et sur le web. Les bibliothèques du Havre et de Vichy ont ainsi collaboré à la création de tels circuits. Je ne vais pas essayer de vous montrer la version en ligne, je vous laisserai aller voir par vous-même. À Vichy, donc, un parcours pédestre à travers la ville permet de découvrir la personnalité de Valérie Larbeau et de ses contemporains, avec pour dernière étape la bibliothèque. Un guide éventail a été édité par la bibliothèque et l'office du tourisme pour pouvoir faire la balade par ses propres moyens. La visite est également donc accessible en ligne et déclinée en application pour les téléphones, les smartphones. La promenade littéraire Le Havre est constituée de 20 étapes matérialisées par des bancs sur lesquels sont reproduits des extraits littéraires d'auteurs dont la bibliothèque conserve les archives, tels Bernardin de Saint-Pierre, Armand Salacroux, Georges Limbourg ou Raymond Queneau. La bibliothèque a mis ses ressources iconographiques à disposition de l'enseignante-chercheuse qui est à l'origine du projet. Ces initiatives sont l'occasion de valoriser le patrimoine sous une forme nouvelle, hors les murs et itinérante, accessible au grand public local et touristique. Les bibliothèques parviennent ainsi à relier les patrimoines littéraires, artistiques, géographiques, architecturales, thermales dans le cas de Vichy, qui sont autant de portes d'entrée pour les publics. En conclusion, je soulignerai les apports principaux de ce travail de recherche et envisagerai quelques perspectives. Ce travail a d'abord permis la définition et l'identification d'un patrimoine dispersé et la proposition d'un état des lieux à l'échelle du territoire national. L'enquête a démontré que les archives d'écrivains représentent au sein du monde des bibliothèques une certaine réalité historique, culturelle, matérielle, ainsi que dans l'offre de médiation des établissements. Ce travail fut également l'occasion de mettre en avant les richesses d'un patrimoine scientifique et culturel. Les bibliothèques, nous l'avons vu, s'inscrivent aujourd'hui dans une démarche de médiation renouvelée, à même de révéler au public le potentiel de ces ensembles patrimoniaux. Au final, il semble que l'enjeu soit pour chaque établissement de construire une médiation qui parvienne à mettre en résonance les archives qu'il conserve avec les différents contextes qui l'entourent, contextes scientifiques, territoriales, culturelles, tout cela afin de trouver un écho auprès des différents publics. Côté perspective, soulignons l'intérêt des partenariats et rapprochements entre bibliothèques, archives et musées. Mon mémoire pointe certaines évolutions croisées des institutions culturelles, notamment en termes d'avancées sur le signalement et en matière de valorisation. Gageons que les bibliothèques gagneront à travailler davantage en synergie, entre elles, avec les autres acteurs du patrimoine et avec le monde de la recherche, afin de monter en compétences, d'accroître la visibilité des fonds et des initiatives et de renouveler leurs actions de valorisation. Les opportunités offertes par l'outil numérique sont à ce titre intéressantes, notamment pour lutter contre la logique de dispersion des archives entre différentes institutions, cela grâce à des lieux de partage d'archives numérisées. Quelques cas présentés dans mon mémoire illustrent ces potentialités, celui par exemple des archives de Georges Sand, diffusées dans la bibliothèque numérique de la bibliothèque de Châteauroux, alimentées par ses propres fonds, par ceux de la bibliothèque de la Châtre et ceux du musée Georges Sand. D'autres perspectives et interrogations se font jour du côté enfin de l'archivage numérique. À ce sujet, le chercheur Pierre-Marc de Biasi engage une réflexion sur les archives de la création à l'âge du tout numérique. À l'heure où, en effet, de nombreux écrivains ont substitué le clavier à la plume et où l'envoi de mails et de SMS supplante peu à peu l'envoi des lettres manuscrites. Dans un article de la revue Science Lettres, le chercheur évoque le dilemme face auquel nous nous trouvons aujourd'hui, entre d'une part le risque de tout perdre et le rêve ou le cauchemar de tout conserver. D'un côté, en effet, il est possible de conserver les traces d'une écriture nativement numérique, certains logiciels permettant de faire réapparaître les états successifs d'une rédaction, ou encore de stocker les mails et les SMS d'un écrivain, mais avec le risque de crouler sous la masse des données accumulées. De l'autre, on a le risque de tout perdre, par négligence ou désintérêt, de par l'absence de dispositifs adéquats ou du fait du problème de la pérennité des données. D'où la nécessité d'autant plus accrue d'une véritable réflexion sur les choix de conservation et de transmission. Je terminerai en rappelant le rôle essentiel des bibliothécaires archivistes, garants de la conservation des traces de la création, qui permettent et permettront à l'avenir d'appréhender non seulement ce qu'était une œuvre, mais également ce qu'était un écrivain à une époque donnée. Merci.
Merci Juliette pour ce beau parcours qui aura peut-être suscité des questions. Avec cette ouverture que vous mentionnez en conclusion vers des archives numériques, est-ce que vous avez croisé des bibliothèques qui réfléchissent très sérieusement et qui ont mis en œuvre une manière de les intégrer dans leurs fonds ?
Alors pour l'instant, je connais une bibliothèque qui s'est lancée dans l'expérience, c'est la BNF, puisqu'un conservateur se rend régulièrement chez l'écrivain Pierre Guyotat pour collecter ses mails et ses SMS qui sont hébergés sur les serveurs de la BNF. Donc pour l'instant, je dirais que c'en est à l'état d'expérimentation. La BNF a créé une nouvelle filière en fait pour les entrées, donc qui s'appelle ADNN, donc pour les acquisitions et dons nativement numériques. Donc voilà, c'est vraiment à l'état de réflexion. Et voilà, cet exemple est assez intéressant.
D'autres questions ou remarques?
Alors, un peu décalé comme remarque, mais je pensais aux travaux de Pierre Bayard et notamment à son ouvrage « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ». Et il rappelait que... Alors, je me pose plutôt dans une posture de lecteur et peut-être d'amateur de littérature et pas dans une posture de scientifique, mais il rappelait que la lecture, d'abord et avant tout, c'est l'oubli aussi. Lire, c'est oublier. Et c'est participer à ce travail d'oubli, de remémoration partielle. Et là, on pourrait s'inscrire, alors là, évidemment, je fais un lien évident avec l'analyse du big data et le stockage de tout, quoi. On pourrait s'inscrire à nouveau dans un processus sans fin, bourré de failles, où on va tout conserver. Et pourquoi ?
Bonne question, en effet. Et sur la problématique de l'oubli, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la manière dont les écrivains eux-mêmes en fait organisent l'archivage de leurs propres manuscrits ou choisissent volontairement de tout détruire en fait pour qu'il ne reste pas de traces de leur travail de création.
Il me semblait que j'avais vu une main se lever.
C'est moins une question qu'un témoignage. Au sein du réseau des médiathèques Ouest-Provence, il y a un village qui s'appelle Grance. Et à Grance, il y a une maison des illustres qui est celle de Mas Felipe de la Vouette, un grand poète provençal. Et juste indiquer que nous mettons à disposition un bibliothécaire, une partie de son temps de travail, pour accompagner un travail d'archivage, de signalement et de diffusion de l'œuvre de Mas Felipe de la Vouette, donc, qui actuellement est rassemblée dans la maison qui s'appelle le Bail Vert à Grance. Donc le poète est décédé depuis quelques années déjà, et c'est sa femme qui s'occupe de cette collection. Et donc on l'accompagne sur vraiment un travail de patrimonialisation de ce fonds. Voilà.
Merci. En effet, il faut de la main d'œuvre pour gérer ces milliers de pièces d'archives. Et lors de mon enquête, ça a été une question vraiment récurrente, effectivement. La possibilité de mettre à disposition des personnes sur du long terme pour gérer des fonds. Donc les bibliothèques font souvent appel à des vacataires ou tissent des partenariats, par exemple à la bibliothèque universitaire d'Angers avec la filière archivistique de l'université. Donc des étudiants viennent prendre en charge des fonds parce que c'est effectivement un gros travail.
Pas de regrets. Eh bien, merci beaucoup, Juliette. Nous allons enchaîner.